Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous suivre partout où vous êtes en RDC et même en dehors du pays sur www.radiookapi.net. Comment améliorer les conditions de vie, les conditions dans les prisons de la République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Patrick Pokoso, coordonnateur de monitoring et protection des droits de l'homme à l'ONG Les Amis de Nelson Mandela. Monsieur Patrick, bonjour.
Bonjour, journaliste.
Bienvenue dans cette émission des questions et préoccupations. Vous avez des témoignages par rapport aux conditions carcérales dans le milieu où vous êtes, là où vous vivez. Appelez pour témoigner au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Comment se déroulent les opérations d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle? On en parle tout à l'heure à 11h05 de Kinshasa avec Jean-Baptiste Aitipo, directeur de communication à la CENI. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Appelez le 081 890 63 94, écrivez-nous à service@radiookapi.net, postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation, Miko, Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui des conditions carcérales, les conditions dans les prisons de la RDC. Les ONG de défense des droits de l'homme ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les mauvaises conditions des détentions dans les prisons et Amigo de Kinshasa et des autres villes du pays. Les rapports de ces ONG relèvent souvent la surpopulation. Il y a des problèmes tels que la surpopulation, le manque des soins appropriés, la vétusté des locaux, des maladies, et parfois il y a des situations pas très très bien dans nos prisons. Les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas ne sont pas du tout bonnes. Alors nous allons en savoir plus avec notre invité sur ce qui doit être fait pour améliorer les conditions dans les prisons et Amigo de la RDC. Monsieur Patrick Pokoso, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme je l'ai dit, vous êtes coordonnateur de monitoring, chargé de monitoring et protection des droits de l'homme à l'ONG Les Amis
de Nelson Mandela.
Alors, quels sont comment décrivez-vous les conditions, généralement, les conditions dans nos prisons?
Merci, monsieur le journaliste. Bien avant de commencer, nous pensons que nous devrons d'abord parler de cadre légal qui régisse ces secteurs. Alors, dans le cadre légal, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Constitution de notre pays, l'ordonnance loi numéro 344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire, l'ordonnance loi numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative aux attributions des officiers et agents de police judiciaire, pour ne citer que cela. Alors, concernant le problème qui gangrène les prisons de la République démocratique du Congo, nous avons pensé relever quatre problèmes phares. Le premier problème, comme vous l'aviez dit si tôt, c'est les problèmes de bâtiment, l'espace qui accueille le prisonnier. Le deuxième problème, c'est la promiscuité, la surpopulation de détenus. Le troisième problème que nous avions relevé...
D'abord, vous dites que le bâtiment, c'est quoi le problème avec le bâtiment?
C'est que le problème avec le bâtiment, vous êtes sans ignorer que la plupart des prisons de la République démocratique du Congo sont construites à la période coloniale. Mmh. Alors notre pays n'a pas une politique d'envisager de construire de prisons. Vous comprenez?
Donc ce sont des vieux bâtiments qui datent de l'époque coloniale.
Ce sont pratiquement des bâtiments vétustes qui ne répondent plus au critérium international. Alors
on a jamais construit d'autres bâtiments?
Non, il y a
des le pays.
Non, il y a des constructions mais c'est à faible niveau. Vous comprenez? Il y a des constructions mais ces constructions là ne sont pas très voyants, vous comprenez. Alors, au-delà de ça, nous avions parlé de la surpopulation. Les bâtiments datent. Et aujourd'hui, la politique de notre pays n'a pas une vision claire par rapport à la construction des bâtiments. C'est ce qui crée la surpopulation. Parce que il y a la densité de la population. Le quota, le nombre de la population qui était en 1960, je ne pense pas que si ces mêmes nombres-là existent. Alors, l'État devrait envisager d'autres politiques, comment construire d'autres bâtiments pour pallier à ces problèmes de surpopulation.
Voilà, donc ce sont là les problèmes qu'il y a dans nos prisons, la surpopulation.
Ça, c'est les premiers problèmes que nous avions soulevés.
D'accord, donc les bâtiments construits depuis l'époque coloniale, des bâtiments vétustes, et qui n'arrivent plus, dont les dimensions ne peuvent pas recevoir autant de monde comme nous le voyons aujourd'hui. Et il y a aussi un problème par rapport à l'alimentation. Il semble que les gens ne sont pas bien nourris, les prisonniers mangent difficilement. Surtout à la prison centrale de Kinshasa, on parle d'une nourriture qu'on appelle souvent le vungulé. Je crois que c'est un mélange de maïs et d'haricots. Et on ne tient pas compte des régimes alimentaires, etc. C'est très compliqué.
C'est vraiment très compliqué. Nous avions décrié ces problèmes-là il y a très longtemps. Aujourd'hui, il y a un semblant farfelu de l'amélioration de cette condition. Mais la plupart des prisons de la République démocratique du Congo souffrent. La prison peut-être de Makala a essayé d'évoluer. Aujourd'hui, les prisonniers essayent de manger le haricot et le riz, parfois aussi le pundu et consorts. Mmh. Mais dans d'autres provinces, la situation de Vungulé n'a pas changé. Si on essaye d'interroger l'article 62 de l'ordonnance loi numéro 344 que j'ai cité ici, les prisonniers ont droit de repas 3 fois par jour. Vous imaginez. Alors, dans notre pays, les prisonniers n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Et d'ailleurs, je crains que ça ne soit pas chaque jour. Vous comprenez. Alors que ce droit-là...
Votre ONG a déjà eu à enquêter sur ça, sur l'alimentation dans les prisons.
Justement, nous avions eu à enquêter, c'était la période de l'ex-président, vous comprenez. Nous avions eu à enquêter et nous avions décrié ces problèmes-là par rapport à la situation d'alimentation aux prisonniers. Ce sont des droits sociaux culturels, vous comprenez. Généralement, on appelle des droits éco-soc, qui fait aussi partie des droits de l'homme. Alors, ces droits-là, aujourd'hui, sont presque bafoués par les autorités de notre pays.
Bien, quels sont les autres... quels sont les autres problèmes que vous avez relevés dans les prisons?
Oui, au-delà de problèmes de l'alimentation, nous avions aussi relevé les problèmes de l'eau potable. Est-ce vraiment les prisonniers prennent de l'eau potable? Est-ce qu'il y a l'électricité, le droit à l'électricité? Est-ce que ces prisonniers sont pris en compte? Est-ce que les prisonniers sont bien vêtus? Parce que nous ne pouvons pas oublier que dans l'ordonnance loi que j'ai mentionné ici, dans son article 51, parle de vêtements. Lorsqu'un prisonnier accède dans la prison, il doit bénéficier de vêtements. Au-delà de ça, le droit aux soins de santé. La loi dit que lorsqu'un prisonnier entre dans la prison, ce dernier doit se faire dépister. Vous comprenez? Parce qu'il peut entrer à la prison avec des maladies transmissibles et il peut facilement comme ça infecter les autres. Mmh. Est-ce que le droit à la santé est respecté à la prison? Ça, ce sont des questions que nous ne cessons de poser par rapport à la condition de prisonniers en République démocratique du Congo.
D'accord, on va accueillir les auditeurs. Nous avons un premier auditeur en ligne, Orsen depuis Lubumbashi. Mesdames et messieurs, pour participer à cette émission sur les conditions dans les prisons de la RDC, appelez au 081 890 6394. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Orsen, vous êtes à Lubumbashi, nous parlons de comment améliorer les conditions dans les prisons de la RDC. Bonjour.
Bonjour, monsieur Zoti, bonjour à l'invité.
Bonjour, monsieur Orsen.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Orsen?
Ah, merci beaucoup pour la parole, monsieur Zoti. Moi, je pense que ces gens-là, ce sont les humains comme tout le monde, mais c'est peut-être par rapport à des situations-là, peut-être d'autres se sont retrouvés dans des prisons-là parce que là, une dette de quelqu'un, d'autres, là, qui ça, on connaît les gens qui marchaient pour le départ du régime sortant. Ils se sont retrouvés en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est là qui pose des actes là qui sont connus de tout le monde dans ce pays. Ils sont libres. Ils sont libres. Et quand j'ai suivi bien l'invité, qui parle des conditions de vie des prisonniers, je ne sais pas de quelle prison il parle. Il parle seulement de la prison centrale de Makala, qui se trouve à Kinshasa, ou bien il parle de toutes les prisons de la RDC. Parce que j'ai visualisé une vidéo il n'y a pas longtemps où un prisonnier est abandonné dans une prison de Mambasa, du côté l'est du pays. Il est abandonné en prison. Les prisonniers qui étaient gravement malades, ses amis prisonniers se sont sensibilisés pour chercher des produits traditionnels. Et les prisonniers étaient abandonnés. Tant qu'il y a les directeurs de prison, il y a d'autres autorités qui pouvaient s'impliquer dans ça. Et en plus de cela, nous, ici à Lubumbashi, je vois la prison de Kipushi, la prison de Katumbale, ça du côté Sodimigo. Mais si vous arrivez là, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas y croire les conditions de vie, les conditions dans lesquelles les prisonniers se retrouvent. Les gens mangent difficilement, les gens tombent malades là-bas, les gens dorment dans de mauvaises conditions, mais je vous dis, vous ne pouvez pas y croire. Vous ne pouvez pas y croire. Alors, je ne sais pas si les autorités peuvent équilibrer les cas de prisonniers, ceux-là qui ont des cas légers, ils peuvent être évacués et encombrer les gens. Une prison, par exemple, de 400 personnes, vous retrouvez là-bas 1000 personnes, 1500 personnes, ce qui n'est pas normal. C'est au moins ça ma contribution par rapport à cette mission. J'ai bien
remercié. Merci Orsen de Lubumbashi. Comment améliorer les conditions dans les prisons de la République démocratique du Congo? Donc là, c'est presque partout la même situation, même à Lubumbashi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Monsieur Patrick?
Bonjour encore une fois, Monsieur Orsen depuis Lubumbashi. C'est que nous sommes en train de parler de la situation commune de prison en République démocratique du Congo. Certes, nous avions relevé les cas de la prison centrale de Makala qui fait une amélioration farfelue de changer la situation par rapport à l'alimentation, mais seulement que dans d'autres provinces, la situation reste la même. Comme vous l'aviez dit, par exemple, dans la prison centrale de Bouta, que j'ai eu moi-même à visiter l'an dépassé. Cette prison-là, les prisonniers n'arrivent pas à bien manger. Le droit à l'alimentation pose très problème. Il n'y a pas des installations sanitaires dans la prison. Vous comprenez? C'est que la situation par rapport aux prisons de la République démocratique du Congo reste alarmante. C'est qu'il n'y a pas un distinguo dans des prisons. La situation reste la même partout en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant aux autorités de pouvoir améliorer cette politique-là, de pouvoir penser comment changer ou respecter les droits de l'homme dans la prison.
S'il faut améliorer les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement?
Bon, pour améliorer la condition de prisonnier aujourd'hui en République démocratique du Congo, d'abord, il faut penser, créer d'autres bâtiments. On essaye de vider l'aspect surpopulation, la promiscuité. Au-delà de ça,
il faut construire d'autres bâtiments, désengorger les prisons.
Voilà. Oui. Au-delà de ça, il faut respecter l'article 39
de la loi numéro 344 qui nous demande de faire un bon distinguo, une séparation dans la prison. Savoir qui sont de condamnés, qui sont de détenus. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, et les condamnés, et les personnes, parce que dans l'aspect surpopulation, j'ai loupé de mentionner ça ici, il y a aussi des détentions préventives. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont amenées à la prison tout simplement parce qu'il a commis, par exemple, un fait bénin. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont en prison centrale de Makala qui n'ont jamais été entendues. Vous comprenez? Alors, toutes ces personnes-là créent une surpopulation. Deuxièmement, pour améliorer la condition, il faut respecter certaines lois de cette ordonnance. Entre autres, le droit à l'alimentation. Je ne pense pas un grand pays comme la République démocratique du Congo peut manquer l'argent pour allouer aux prisonniers si ce n'est que de la mauvaise politique, si ce n'est que de la mauvaise foi. Alors, les prisonniers, bien qu'ils sont dans les prisons, on doit faire de sorte que leurs droits soient aussi respectés comme nous autres.
Ce sont des êtres humains.
Voilà. Ce sont des êtres humains auxquels leurs droits doivent être scrupuleusement respectés aussi. Alors, au-delà de ça, nous pensons aussi comment revisiter cette ordonnance-loi. Parce que l'ordonnance date de 1965, s'il vous plaît. Alors, par rapport au standing national, je pense qu'il faille vraiment revisiter cette loi. Chercher comment l'adapter au standing international. Vous comprendrez peut-être aujourd'hui, je vais faire une étude comparative. Vous comprendrez peut-être aujourd'hui en France. En France, le comité national de consultation des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme la CNDH ici en République démocratique du Congo, a pensé comment faire évoluer le droit familial de détenus. Aujourd'hui, un détenu en France peut sortir parce que un de ses proches est marié. Vous comprenez? Aujourd'hui, en France, un détenu peut quitter la prison pour aller célébrer son mariage. Des choses qui ne se font pas ici, justement.
C'est après comme... la célébration du mariage.
Et il rentre.
Il retourne en prison.
Il retourne en prison. Vous comprenez? Et aussi, il y a le droit de vote. Il y a aussi le droit de vote. Lorsque vous êtes en prison, vos droits ne sont pas bafoués. Parce que le droit de l'homme, c'est un droit viager. C'est un droit naturel, comme on l'appelle. Vous comprenez? Alors, tous ces droits-là, si c'est respecté, ça permettrait, d'une manière ou d'une autre, de faire évoluer la situation de violation des droits de l'homme dans nos prisons. Parce que nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, les prisons en République démocratique du Congo ne sont que des centres à ciel ouvert de torture. Vous comprenez? Les prisonniers sont vraiment torturés. Dans le rapport des amis de Nelson Mandela, nous avions eu à décrier la mauvaise pratique d'avoir un chef de prison dans la prison. Vous comprenez? C'est que dans la prison, il y a un monsieur qui est le chef des prisonniers. Et c'est lui-là, parfois, il commet de bavures, des abus des droits de l'homme. Voilà un peu d'emblée ce que nous pouvons relever, bien qu'il y a beaucoup de points vraiment.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. On va accueillir Kachai depuis Kanyoka. Kachai, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à l'invité de la radio Capi.
Bonjour.
On vous écoute. Hein.
Merci beaucoup, monsieur Jody. La situation telle que détaillée par l'invité de la prison, ou soit des prisons en RDC, est catastrophique partout. Si déjà, monsieur Jody, au centre-ville, ou soit les prisons des villes, ne répondent pas aux droits des prisonniers, et ces prisons-là ne se conforment pas aux conditions normales d'hébergement, vous pensez que c'est seulement les prisons construites dans le milieu reculé de la République, ce sont celles-là qui peuvent alors répondre efficacement aux besoins des prisonniers? Monsieur Jody, Pourquoi nous sommes en train de pleurer dans ce pays? Chaque ministre dans son département ministériel a certaines responsabilités vis-à-vis des attributions relevantes de sa compétence. Dans le cadre de la prison, c'est la ministre de la Justice et Garde des Sceaux qui gère des prisons.
La ministre de la Défense
et qui doit
aussi,
à tout moment, dans ses programmes, prévoir comment nourrir les prisonniers, comment entretenir les prisons avec des soins, comment construire des prisons là où elles n'existent pas. Comment c'est le travail de la ministre, Madame Rose Mutombo, Excellence, avec tous les respects. Ici, au Kasaï Central, la prison de Kananga, Monsieur Jody, n'eût été l'intervention du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. En tout cas, cette prison-là était considérée comme un mouroir. Quand vous entrez dans la prison, vous mourrez. Vous savez que si on arrête la ministre aujourd'hui, elle va tomber malade le même jour en prison, non? Mais si c'est quand il est arrêté, il peut faire 10 ans sans qu'il ne meure. Comme c'est que nous avons des organismes différents. Alors, ce que moi je demande à l'invité, c'est quoi? Le plaidoyer qu'il est en train de faire, il le fait à la radio, ou soit ils ont entamé des démarches pour que les lois, toutes les lois qu'il a évoquées, soient respectées par le pouvoir de Kinshasa. La prison, ce n'est pas, en RDC, ce n'est pas seulement la prison de Makala. Il y a des prisons partout. Monsieur Jody, quand vous venez à Kananga, si vous voulez aller voir votre frère ou votre sœur arrêté à la prison, vous devez d'abord payer le droit d'entrée à la porte. Si vous avez à manger pour donner à celui que vous êtes venu voir, vous devez payer les droits de manger à ceux qui dirigent la prison. Les prisonniers, là, ont une organisation. Ils ont même le premier ministre, les gouverneurs. Ils ont tout dans la prison. Et vous devez payer quelque chose à ce gouvernement-là de la prison pour que les vôtres puissent accéder à la nourriture. Monsieur Jody, on ne savait pas différencier les femmes des hommes. On ne savait pas différencier les appartements des hommes et des femmes. Il n'y a même pas le centre de santé dans la prison. Toutes les prisons sont à mauvais état de santé.
Kacha, ils là-bas, sont là-bas, ils à ne Kanyuka, sont pas en bonne santé. Là-bas à Kanyuka, comment on appelle la prison centrale?
Oui, nous avons la prison centrale de Tchamala, c'est la prison centrale de Kananga, Tchamala, ex-Tchamala.
Okay.
Le premier prisonnier qu'on avait mis là-bas. Alors, monsieur Jody, il y a des prisons, nous avons dans la prison deux registres, non? Le registre des coûts,
oui,
et le registre d'hébergement.
Oui, oui.
Pour distinguer les détenus préventifs et les condamnés.
Oui.
Mais à la prison, on ne sait pas différencier qui est détenu et qui est normalement prisonnier.
Alors, Kacha, pour terminer, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions dans nos prisons?
Merci beaucoup, monsieur Jody. De maintenant, si madame la ministre de la Justice est en train de nous écouter, parce que l'invité n'a pas de solution à donner, la solution doit émaner du gouvernement. Excellence, madame la ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, si vous voulez que les conditions de vie des prisonniers soient améliorées, commencez par envoyer d'abord des commissions dans chaque province pour étudier les conditions de viabilité de chaque prison. Évaluer les réalités de chaque milieu. Troisièmement, ne pas se fier aux organisations humanitaires qui apportent toujours de l'assistance aux prisonniers. Votre ministère doit étudier une politique normale de nourrir les prisonniers régulièrement. Ils ont droit aux soins de santé. Ils ne peuvent pas être négligés parce qu'ils sont en prison. Car si on met le député national, le député provincial, la ministre, le président de la République en prison aujourd'hui, il va tomber malade.
C'est le cas de Kanyuka. Merci Kacha Ide Kanyuka. Merci pour toutes ces propositions. Nous parlons de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. On va accueillir Grâce depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers?
Oui, voilà. Moi, mon inquiétude est ici à Bounia. Il y a dans notre prison centrale ici à Bounia, j'hésite à savoir si les prisonniers aussi ont droit au sport. Parce que le fait de rester sur place sans exercer les exercices de sport, sans faire un mouvement quelconque, pour juste sortir un peu de la chaleur, pour mouvoir un peu les muscles, ça peut créer aussi des maladies. Vous voyez, premièrement, d'abord, la condition de la nourriture est très difficile. À part ça, il manque. Vous pouvez avoir votre frère qui est dans la prison et vous amenez pour lui la nourriture. Peut-être qu'il ne va même pas manger ça. Il va juste manger un peu et les autres vont manger tout. Donc. Et l'autre chose, les prisonniers ont besoin aussi de sport. S'il y a moyen de leur créer un stade seulement dans la prison et créer un espace pour exercer un peu les exercices de sport. Et même jouer même au football, le basketball, juste pour mouvoir un peu les muscles, parce que rester sans faire les mouvements sportifs, donc ça peut créer encore des maladies. Il y a d'autres personnes qui ont même eu des problèmes de gonflement des pieds à cause de rester sur place, même pas faire les mouvements. Donc c'est ça un peu qui est mon inquiétude.
D'accord, merci Grace de Bounia. Alors, qu'est-ce que, M. Patrick, votre réaction par rapport à toutes ces propositions?
Monsieur Grace depuis Bounia a parfaitement raison, parce que dans la loi dont nous avions fait mention ici, il y a aussi une sorte de des exercices physiques, vous comprenez.
C'est prévu dans la loi.
C'est prévu dans la loi, mais fort heureux, malheureusement, c'est pas appliqué.
D'accord. Donc il faut des équipements pour les exercices. Oui. Il faut désengorger les prisons, que ça soit bien aéré, assurer l'alimentation trois fois par jour, c'est ce qui est prévu. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais qui ne sont pas toujours respectées. C'est ce qui fait que nos prisons sont devenues des mouroirs. Alors, donc c'est ça la situation. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. On va s'arrêter là. Je rappelle que vous êtes coordonnateur chargé de monitoring et protection des droits de l'homme à l'ONG Les Amis de Nelson Mandela. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, je vous remercie.
Tan ne va comme un combinon, la tarot, la combo, la bateau. La saline.
La radio Okapi, une voix pour tous. Les magazines Okapi Service se poursuivent. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Nous avons en ligne Justin de Bounia et Paul Omeyonga depuis Nongo. Avant de les accueillir, on va recevoir M. Henri-Christian Longenja, qui est secrétaire exécutif du collectif 24, qui fait la promotion du droit à l'information. Il est activiste, voilà, de droits de l'homme, des droits de l'homme. Henri-Christian Longenja, bonjour.
Bonjour, Také. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Avant d'aller plus loin, on va accueillir Justin de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe rédactionnelle de Radio Okapi et MRV.
Bonne année, Justin. Alors, nous parlons de l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. D'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre les prisonniers dans des bonnes conditions?
Merci beaucoup, monsieur Jody, de m'avoir associé, en tout cas, dans cette thématique de ces jours. Oui, en voyant, en tout cas, notre pays, c'est un pays, en tout cas, riche, mais tout ce qui se passe, moi, je regrette beaucoup. Monsieur Jody, nous connaissons tous que la prison, c'est un centre d'éducation pour les gens qui ne comprennent pas ou bien qui n'écoutent pas. Mmh. Mais que ça ne soit pas une torture, lorsque vous faites un tour à travers le pays, dans nos prisons, particulièrement ici à Bounia, dans la prison centrale, c'est une torture, c'est un esclavagisme. Donc, un prisonnier même, il n'a pas droit de l'éclairage, il n'a même pas droit de... Donc, on laisse des petits trous. Maintenant, moi, j'aimerais dire que nous avons des lois ici dans notre pays et ce sont des lois qui ne sont pas applicables. Nous avons des lois théoriques, mais ce ne sont pas des lois pratiques. Et nous avons des autorités qui peuvent même faire le suivi de toutes les lois-là.
Est-ce qu'à la prison de Bounia, là-bas, est-ce que les prisonniers sont bien nourris? Est-ce qu'ils mangent bien?
Monsieur Jody, les prisonniers peuvent passer même deux ou trois jours sans manger. Et un prisonnier qui reste dans un état, c'est vrai, c'est une récarcération. Mais allez voir la condition dans laquelle ces gens vivent. Et donc, moi, j'aimerais dire ceci, que le président de la République, que le premier ministre, ou soit le ministre de l'Affaire intérieure, puisse en tout cas se mobiliser, comment améliorer. C'est vrai, même si c'est la loi qui dit que non, un prisonnier congolais, il n'a pas droit au rayon soleil, ou bien il n'a pas droit à l'éclairage, il n'a pas droit donc à l'éclairage, monsieur, aujourd'hui. Ce n'est pas ça, quand même. Ce n'est pas ça. On doit quand même avoir...
On doit quand même améliorer. D'accord, merci. D'accord, ce sont des êtres humains, ils ont droit, voilà, tout cela. Merci beaucoup.
Je vous remercie, en tout cas, et bonne journée à Maître Harry Longenja.
Bon, merci beaucoup, Justin. Paul Omeyonga, depuis Nongo, bonjour. Paul Omeyonga, bonjour. Il n'est plus là. Henri-Christian Longenja, votre réaction par rapport à ce que Justin vient de dire?
Bon, effectivement, je dis, il y avait, par rapport à ce que Justin vient de dire, il a parfaitement raison. On doit savoir que, un, la liberté, c'est un principe, et la détention est une exception. Donc, l'homme est censé libre, vivre libre, mais on le détient parce que ce n'est pas qu'il est condamné à mort, mais on le détient parce que c'est un délinquant, un hors-loi, et qu'on ramène dans un lieu sûr pour, comme objectif, la rééducation, pour que lorsqu'il sort de là, il change et qu'il soit utile à la société. Mais contrairement à ça, même s'il y aurait, même s'il serait condamné à mort, il est moratoire en RDC, donc on n'exécute plus les gens. Donc ce qui veut dire que il faut pas que les prisons soient des endroits d'euthanasie ou des endroits où on achemine les gens directement vers la mort. Ce n'est qu'ici au Congo où on trouve qu'il y a tel prisonnier décédé parce qu'il a fait autant de jours, il n'a pas mangé, parce qu'il n'a pas eu les soins médicaux, et que ça se passe inaperçu. Même CNDH, même la communauté internationale, même le gouvernement trouve ça normal. C'est comme si une bête qui est morte et qu'on va jeter comme ça. Alors que c'est toute une personne dont le pays a besoin de lui. Mmh. Moi, je pense que pour améliorer les conditions, il est important d'abord qu'on puisse désengorger nos prisons. Les prisons sont construites par rapport à un nombre bien limité. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a volé un poulet directement en prison, il a volé un pain en prison. Il suffit seulement qu'il ne s'attende pas bien avec un officier militaire.
Il se retrouve en prison.
Police ou un agent de la sécurité, directement, magistrat, prenez-le directement en prison. Donc, on ramène les gens là, même sans dossier, et celui qui l'a ramené ne sait même pas suivre, on l'abandonne comme ça. Le directeur de prison ne sait pas le libérer parce que tel terrain est venu le laisser. Et tout ça, ça crée la promiscuité dans les cellules pour rien. Et il est important qu'on puisse désengorger par rapport à tous ces dossiers. Et que nous, on pensait que notre collègue, la société civile, ayant pris le ministère de la Justice, devrait vraiment faire un effort. Ici, je fais allusion à Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, faire un effort que dans son mandat, que ce genre d'État que nous avons toujours décrié, que ça puisse vraiment diminuer. Mais malheureusement, la politique aussi a sa manière de voir les choses. C'est, malgré les efforts, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a aussi des questions de mesures de grâce pour libérer certaines personnes. Mais malheureusement aussi dans notre pays, lorsqu'on décide de libérer tel, ou prenons par exemple les prisonniers politiques, on dit non, voilà, mais je prends le cas de Jean-Marc Kaboul pour ne pas citer. On dit bon, voilà, il mérite une résidence surveillée ou soit une liberté provisoire. On dit non, on ne peut pas les libérer. Donc il y a tout ça. En plus, l'État ne construit pas les prisons. Il est important qu'on puisse construire les prisons dans des normes. Et en tenant compte de la salubrité, en tenant compte aussi de la restauration. Vous trouvez dans certaines prisons, en Bandaka, et Kafera, par-ci, par-là, Nangenga, vous trouvez que les gens dorment à côté des matières fétales. Est-ce que c'est normal? C'est parce que quelqu'un...
Pourquoi à côté des matières fécales? Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de toilettes.
Il n'y a pas de toilettes et les gens sont en train de chier sur place. Les gens sont en train de chier sur place et dans les sachets ou soit à main et on les jette à côté et qui dorment là. Alors, donc, vous trouvez qu'avec tout ça, quelqu'un vient qu'on est dans un pays où la salubrité s'est devenue comme quelque chose de béni. Mais quand même, lorsqu'on a incarcéré quelqu'un là, 24 heures sur 24, il est là, il respire cette terre-là, il doit quand même vivre dans de bonnes conditions. En même temps, on développe des programmes de formation, de rééducation pour que quelqu'un qui sort de la prison, et on puisse sentir dans la société qu'il a changé. Mais ce n'est pas comme nous constatons, on arrête les Koulouna, on les amène en prison, après 2-3 jours, on les libère parce qu'ils auraient donné l'argent, ils sortent, ils deviennent encore pires qu'avant qu'ils n'aient été en prison. Donc, il y a vraiment un grand problème par rapport à nos piliers carcérales, et que je pense qu'il est important d'humaniser ça. nous parcourons le monde et que nous prenons quand même le soin de visiter certaines prisons, à part des prisons vraiment secrètes que vous ne pouvez pas y arriver, mais des prisons dont nous avons la chance de les visiter par le monde, vous trouvez comme si quelqu'un est chez lui dans une flat hôtel, dans de bonnes conditions, il est là, il y a la télé, il peut bien lire, il y a même les gens qui écrivent dans des prisons. Et on lui donne un devoir, est-ce que tu sais pourquoi on t'a ramené ici et quel est votre projet de société une fois que tu sortirais d'ici? Et qu'il est en train d'écrire, on l'impose d'écrire. Ceux qui ne savent pas écrire, il y a l'alphabétisation dedans, il y a la menuiserie, il y a beaucoup de services, et c'est ça la rééducation. Mais pour nous...
Nos prisons sont devenues des mouroirs. Bien, un instant, Henri. D'accord. On va accueillir Madame Claudia depuis Coloésie. Bonjour, Madame.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité. Je veux d'abord premièrement remercier la radio Capi qui nous cesse de tirer la sonnette d'alarme suite aux mauvaises conditions de détention des prisonniers. Et chaque fois aux infos, on en parle toujours. C'est vraiment pénible de voir les conditions inhumaines dans lesquelles les prisonniers vivent. Mais la question qu'on se pose est de savoir pourquoi est-ce que les autorités sont indifférentes. Parce que cette situation date de plusieurs années. Moi, je me souviens déjà quand j'étais encore enfant. Quand une personne était jetée en prison, on voyait même les membres de sa famille pleurer. Ils faisaient vraiment des deuils. Ouais, parce qu'ils voyaient que le moment difficile de leur proche allait passer. Alors, les membres de la famille pleuraient comme ça. Je veux un peu savoir.
Là-bas, à la prison centrale de Dilala, il semble qu'il y a d'autres bâtiments qui ont été construits. Il y a eu quand même une amélioration.
Je ne sais pas, en tout cas. Je ne suis pas informée, je ne sais pas.
D'accord.
En fait, moi, je voulais un peu savoir, il y a quelques années, il y a un PVVIH qui était détenu en prison. Quelques temps après la sortie, la personne n'avait pas pu survivre pendant longtemps parce qu'elle avait été privée des ARV pendant toute la période de détention. Et quand elle avait quitté la prison, après quelques mois, elle était décédée. Alors, je voulais savoir s'il y a une amélioration. Si les PVVIH ont accès aux ARV, ou si c'est fini pour eux, ils sont condamnés à mort. Parce que les prisons sont censées être des maisons de correction et pas des mouroirs. Et si on doit laisser les personnes mourir comme ça, les malades mourir, c'est une forme de peine de mort. C'est comme si les personnes ont déjà été condamnées à mort avant ou après le procès. C'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un organisme international qui est censé sanctionner tous les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, parce que quand même qu'on parle de l'abolition, de peine de mort, l'abolition de torture, tout ça, mais il y a certains pays qui sont toujours, qu'il n'y a pas moyen de les sanctionner.
C'est une violation des droits de l'homme.
Oui, on ne peut pas sanctionner, ça ne peut pas vraiment sanctionner certains pays, comme le nôtre, par exemple.
D'accord, merci Madame Claudia. Henri-Christian Longenja, à vous la parole.
Oui, effectivement, Madame Claudia a raison que nos prisons sont... Lorsqu'on connaît quelqu'un, c'est comme une sorte de peine de mort. Les organisations, il y en a. Vous avez, par exemple, l'OMCT, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture. Ça existe. Ça condamne ce genre de choses. Vous avez les bureaux des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous avez toutes les institutions de Genève par rapport à la promotion des droits de l'homme. Et nous, les organisations locales de promotion des droits de l'homme, nous n'avons pas le pouvoir de condamner, mais nous avons notre arme, ce n'est que cette manière de dénoncer, de faire une sonnette d'alarme pour que le gouvernement se réveille. Mais au niveau international, lorsqu'on doit coûter les pays qui respectent les droits de l'homme, il y a des codes qu'on donne à des États. Et que je pense que par rapport à des questions carcérales, la RDC ne peut pas gagner de points quant à ça. Bien sûr, la RDC va dire, mais est-ce que nous sommes plus que les États-Unis ou la Chine ou l'Inde, les pays vraiment avec des prisons où vous trouvez que la torture en outrance. Mais ça, ce sont des cas vraiment très extrêmement graves. Ce sont des cas de hauts crimes qu'on amène des gens très, très dangereux. Mais ce n'est pas des cadres, par exemple, des droits civils, et qu'on amène les gens dans des prisons. Des prisons normales, les gens sont dans des bonnes conditions. Et là, nous parlons même des prisons, c'est encore trop. À eux-mêmes et dans les amigos. Au niveau des amigos, au niveau des sous-siates, au niveau des siates, c'est encore pire. Vous allez voir, d'abord, le policier lui-même est dans un conteneur et il fabrique quelques 2-3 tôles qu'ils encerclent et puis ils prennent tout le monde, ils les entassent comme étant des sardines là-bas et ils peuvent pas bouger, ils peuvent même pas s'asseoir et dès qu'ils arrivent là, ce sont des autres prisonniers qui commencent à tabasser celui, les nouveaux arrivants. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui doivent bien interpeller un État et surtout un gouvernement qui se dit, un gouvernement qui veut promouvoir l'état de droit, qui est là pour promouvoir les droits de l'homme. Donc, moi, je pense que Madame a parfaitement raison, mais nos autorités, le ministre, Madame ministre d'État, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, sont interpellés au plus haut niveau. Et les services de sécurité, moi, je dis, le rôle des services de sécurité, vous prenez le Conseil national de la sécurité, vous prenez l'ANR, ainsi de suite. Est-ce que leur rôle, c'est uniquement arrêter les gens, les incarcérer? Lorsque je vois les documents qui créent ces services, ils ont aussi pour mission de promouvoir les droits de l'homme, de garantir la protection des personnes. Mais pourquoi ils ne s'intéressent pas des conditions des gens dans les milieux carcérales au niveau des amigos et au niveau des prisons pour dénoncer cette maltraitance des gens et à ce moment-là trouver solution parce que ça n'honore pas. Et vous arrivez dans ces lieux-là, dès qu'on découvre que ah c'est quelqu'un des droits de l'homme, nous qui sommes connus, directement vous voyez les gens changer des attitudes. Vous voyez le directeur de prison qui vous invite, c'est venu faire quoi? Et vous voulez faire quoi? Il faut trouver encore des astuces pour en savoir plus ce qui se passe. Donc, et maintenant, on vous met en face de certains prisonniers comme un gouvernement de là-bas qui font encore de la loi et qui s'imposent comme si eux-mêmes étaient en ordre et qui donnent des ordres à d'autres prisonniers. Et c'est eux qui vous reçoivent, qui vous disent que nous sommes bien, ainsi de suite, qui vous donnent un rapport autre. Mais dès que vous tournez les dos, vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est une autre version.
Oui.
Et les gens sont là
parce que... Donc il y a toujours tendance à cacher la réalité des choses.
Effectivement, c'est ça la tendance. Dès qu'on connaît que c'est quelqu'un des droits de l'homme qui est arrivé, il y a toujours cette tendance à cacher des réalités. Pour arriver, par exemple, on va vous faire passer dans des pavillons où se trouvent les politiciens, parce que c'est là où les politiciens, comme eux-mêmes, savent qu'en détournant, en gérant mal, avec des conflits politiques et tout ça, ils ont l'argent, ils aménagent leurs pavillons. Mais là où il y a les commets de mortels, là où on lance tout le monde parce que, par exemple, son chien avait mordu quelqu'un, là, parce que son homme, il a volé du pain.
Quelqu'un qui avait une dette, on l'a arrêté seulement à cause d'une dette.
Et à cause d'une dette, alors qu'une dette, on ne peut pas arrêter quelqu'un à cause d'une dette. Alors, là, on met dans le fourre-tout, on met tout le monde. On ne peut même pas vous faire passer là, parce que là, ce sont des crash que vous ne pouvez même pas mieux respirer. Et ils sont là, ils sont condamnés là-bas.
Bien.
Les centres de santé, si on a par exemple des petites dispensaires, qu'est-ce qu'on met dedans comme produit? Rien. Preuve que lorsque les pauvres sont malades, non, voilà, prenez ici à Kinshasa, on dit, tel est malade, il mérite les soins, on l'amène en Ganda, on l'amène en Galema, Santerre, on l'amène partout, on les fait sortir. Mais le paisible citoyen qu'on a arrêté parce qu'il n'a pas payé une dette, il tombe malade. On l'amène où? Qui fait même allusion à lui? C'est comme s'il était un sous-homme et on l'abandonne comme ça dans un centre interne où il n'y a même pas de produits, il n'y a même pas un bon traitement. C'est comme s'il était déjà condamné à mort. On ne s'occupe pas de lui. Et même pour avoir un paracétamol, c'est tout un problème.
Et souvent, il y a beaucoup de cas de tuberculose dans nos prisons.
Effectivement, il peut y avoir des tuberculoses parce que, ils vivent dans la promiscuité. Et toutes ces odeurs de viande qui sont en train d'aspirer. Et
ils sont là, ils ne mangent pas bien. Et lorsqu'ils sont malades, ils ne sont pas bien soignés. Et ils sont exposés à des tuberculoses. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de COVID, lorsque le COVID entre dedans, c'est pour ramasser tout le monde avec toutes ces fortes fièvres qui arrivent pour les ramasser. Mais dis-moi, s'il était politicien, c'est tous ceux qui détournent de l'argent des voleurs là de grands chemins. Là, voilà, il est malade et il faut qu'il mérite les soins. Les avocats, ces avocats, parce qu'ils ont eu de l'argent, font des bruits, on les fait sortir pour les soigner. Mais le paisible citoyen du quartier qu'on a jeté là-bas, personne ne s'occupe de lui. Et des fois, il meurt comme ça, sous silence. Et la famille va constater seulement que leur enfant est décédé. Bon, voilà, celle de l'État, il est décédé, l'État l'enterre et puis c'est fini. Donc, ce sont des choses que, dans un État de droit, où tout le monde est égaux devant la loi, il est important que les traitements soient aussi le même. Lorsque on amène les gens dans des lieux comme ça, d'extraction, c'est-à-dire des milieux carcérales, pour qu'ils soient rééduqués, et non que ça soit tel que ça se passe maintenant.
Bien, on va terminer avec un auditeur qui nous appelle Marcel Luena de Olomami. Bonjour Marcelin.
Bonjour la radio Papi.
Bon, on a plus beaucoup de temps, vous n'avez que quelques secondes, rapidement, allez-y.
D'accord, merci beaucoup pour le correctif, c'est Marcelin, le secrétaire général de la radio Pemba. Sur place, nous disons que réellement, et nous vous remercions d'abord pour le choix de ce sujet, mais nous disons qu'au village, les conditions de vie des prisonniers ne sont pas respectées. Et je m'appelle surtout sur la nourriture. Il arrive des fois que même certaines autorités ecclésiastiques préparent des nourritures pour aller visiter les prisonniers. Or, qu'ils arrivent là-bas, on leur demande de l'argent, ça ce sont des déceptions.
D'accord. Marcelin, merci, on n'a plus beaucoup de temps. Merci, nous disons également merci à Harry Christian Longenja, qui est expert dans le domaine des droits de l'homme. On n'a plus beaucoup de temps, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets prochainement.
Merci, Jody. Mais je voulais ajouter juste une chose à propos de nourriture.
Oui.
Il y a les services nationaux qui ont créé des produits. Et les services nationaux produisent avec les délinquants. Mais pourquoi pas prendre cette nourriture aussi, donner à des délinquants qui ne peuvent pas aller au service national pour qu'ils aussi vivent du produit de leurs collègues.
Merci, Henri.
En même temps, à leur niveau, on les forme aussi pour autre chose, pour servir la nation.
Merci, Henri.